professeur Vincent Feuilly, bonjour. Vous êtes médecin conseiller chez Air France et vous allez nous parler aujourd'hui d'un sujet assez intéressant qui concerne les urgences médicales dans l'aviation civile. Alors notre première question est quelles sont les particularités physiologiques liées à un vol en cabine ?
Oui, bonjour Bruno, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Ce que je vous souhaiterais effectivement expliquer, c'est que l'environnement de la cabine est un environnement particulier, dans le sens que quand on part de Roissy ou d'Orly, on est au niveau de la mer et on va se retrouver à entre 1500 et 2400 mètres d'altitude assez rapidement. Donc le fait de monter en altitude va entraîner au niveau physiologie des changements, à savoir une baisse de la pression partielle en oxygène. Si vous avez votre saturomètre, vous avez testé et vous aurez une saturation qui sera abaissée par rapport au niveau de la mer. L'autre point à retenir, c'est que plus on monte en altitude, c'est la loi de Boyle-Mariotte, PV égale constante. Vous avez notamment au niveau des gaz, la pression diminue, donc le volume augmente. Et au niveau RL, lorsqu'on a une pression qui augmente, notamment au niveau de l'oreille moyenne, pour ceux qui ont une rhinopharyngite, ça peut entraîner une otite barotraumatique, qui est une conséquence particulière. Après, il y a d'autres spécificités qui sont liées aux vibrations, qui sont liées à la température, qui est à peu près constante, et quand même aussi un point à retenir, c'est la sécheresse de l'air. L'air est extrêmement sec. C'est un point aussi à avoir en tête où l'hydratation des personnes est importante.
Et donc, au niveau des urgences médicales qu'on peut observer dans l'aviation, quels sont les cas les plus fréquents que vous avez, vous, dans les avions ?
Alors, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que cet environnement particulier de l'avion fait que, heureusement, les gens qui prennent l'avion sont des gens qui sont en bonne santé. Ils sont d'autant plus en bonne santé que prendre un avion, il y a des étapes au préalable. Il y a les moyens pour aller à l'aéroport, on doit prendre des transports en commun, transports routiers ou autres. Il y a les contrôles qui sont faits sur l'aéroport, des contrôles de pièces d'identité, des contrôles de bagages. Tout ça fait que quand quelqu'un a un problème médical, très vite, il risque d'être identifié dans son parcours avant d'arriver jusqu'à l'avion. Pour dire que globalement, les gens sont en bonne santé, j'exclus tout ce qui est rapatriement sanitaire, qui est là aussi un sujet tout à fait particulier. Eh bien, ce qu'on rencontre le plus fréquemment, l'événement le plus banal, c'est le malaise vagal. C'est vraiment, dans toutes les compagnies aériennes, c'est la pathologie la plus courante, très impressionnante, mais finalement, il suffit de faire allonger la personne. Le risque principal, c'est que les gens vont se cogner et se blesser principalement la tête. Et donc, on allonge la personne, on lui remonte les membres inférieurs et grâce à cela, la personne revient très vite à elle-même. C'est lié aux conditions de stress dans lesquelles on est, parfois des boissons alcoolisées qui peuvent être prises, et c'est quelque chose qui est très courant. Après, vous avez tout l'environnement des différentes pathologies qui vont des problèmes de gastro, ORL et autres. Je ferai après un sujet beaucoup plus particulier. Qu'est-ce qui nous amène à un déroutement médical ?
Ok, et donc justement dans ce cadre-là de type de malaise qui sont finalement pour la plupart a priori assez bénins, comment sont prises en charge ces urgences ? Est-ce qu'il y a notamment vis-à-vis du personnel médical à bord ou autre ?
Alors, c'était aussi quelque chose que peu ont connaissance. Les personnels de cabine ont une formation de secourisme, c'est une formation qui est obligatoire. Ça ne concerne pas que les compagnies françaises. Toutes les compagnies dans le monde entier ont une obligation d'assurer une formation de secourisme. Nos personnels de cabine ont tous les ans un passage obligatoire sur un mannequin pour un cas d'arrêt cardio-respiratoire avec l'identification, est-ce qu'il y a conscience, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il y a un rythme cardiaque. Aucun de ces trois-là n'est présent. Je déclenche le massage cardiaque. Je peux faire la ventilation. Il existe de l'oxygène, des bouteilles d'oxygène en cas de secourisme. Et on bénéficie d'un défibrillateur à bord. Ça, cette obligation, elle est chez tous les personnels. Autre obligation, nous devons avoir à bord un certain nombre de matériel médical qui est dedans. Alors, c'est du matériel qui tient, il y a plusieurs trousses, il y a la trousse de premier secours, c'est une trousse de bobologie, c'est-à-dire c'est là où vous aurez des pansements, un paracétamol, un médicament pour les vomissements, un antihistaminique, des stéri-strips, enfin, ce qu'on a un petit peu dans notre pharmacie de famille et qui est délivré sans besoin d'avoir un avis médical. Et on a une autre trousse, une trousse médicale d'urgence, qui, elle, comporte des spécificités avec des médicaments qui nécessitent une prescription médicale et la présence d'un médecin à bord. Et enfin, on a ce défibrillateur et on a, avec ce défibrillateur, du matériel diagnostique qui comprend un stéthoscope, un tensiomètre électronique, un saturomètre, un glucomètre électronique, un thermomètre électronique et je crois qu'il y a une lampe torche et je crois que j'ai quasiment tout dit. Lorsque j'ai évoqué la présence d'un médecin à bord, donc l'équipage peut être amené à demander à un médecin qui est présent à bord, mais peut aussi faire appel au SAMU de Paris. C'est une tradition en France. Le SAMU de Paris, depuis des années, régule toutes les compagnies aériennes françaises, au même titre que le SAMU Toulouse régule les navires en mer. Le SAMU de Paris a cette particularité de faire une régulation de toutes les compagnies aériennes sur les vols long courrier. Le principe est très simple. Le commandant de bord a une alerte à bord, contacte le centre opérationnel qui est chez nous à Roissy par téléphone satellite. Dans les quelques secondes qui suivent, le médecin régulateur est contacté et il y a un échange d'une qualité parfaite entre le SAMU de Paris et l'équipage qui fait part d'événements médicaux à bord.
Très bien. Et donc justement, en cas d'événement grave, type notamment arrêt cardiaque, y a-t-il comment se passe en fait en pratique le déroutement d'un avion? Est-ce que c'est du coup un atterrissage d'urgence? Est-ce que comment c'est géré en pratique?
Alors, quand nous, on a fait une étude des événements médicaux, je vous ai dit que le premier, c'était le malaise vagal pour les événements courants. Dans les causes du déroutement médical, là, on n'est plus du tout dans le même sujet. La première cause, c'est effectivement la douleur thoracique. La deuxième cause, ça va être l'accident vasculaire cérébral, enfin, des phénomènes neurologiques qui sont les causes du déroutement. Mais le déroutement, il faut aussi être prudent dans le sens que dérouter un vol ne va pas régler le problème au niveau des bénéfices-risques pour le patient. Je vous donne un exemple. Vous faites un vol Afrique, vous avez toute l'Afrique subsaharienne où les moyens médicaux sont limités. Vous faites un vol Asie où vous avez aussi des infrastructures médicales. Maintenant, on n'a plus le droit de survoler le territoire de la Russie, mais il n'y a absolument rien. Vous faites un vol Amérique du Nord, Amérique du Sud, vous avez l'océan Atlantique qui nous sépare, donc aucune structure médicale à pourvoir. Donc, pour qu'on ait bien en tête que le déroutement n'est pas la solution en soi pour régler le problème. Et donc, c'est une analyse qui va être faite par le médecin qui est présent à bord, par le SAMU de Paris. Est-ce qu'il y a une plus-value à dérouter ou pas, sachant qu'un avion, ça va très vite. Et donc, à partir du moment où il y a une décision de déroutement, il faut au minimum une demi-heure, 30 minutes pour qu'un avion atterrisse. C'est-à-dire que l'avion ne peut pas atterrir immédiatement et en quelques minutes se retrouver au sol. Il va devoir faire des procédures particulières pour amener à son déroutement. Arriver sur un aéroport qui parfois, je ne vais pas dire, est hostile, mais ce n'est pas la destination finale du passager. Donc, pas de famille, personne pour pouvoir l'entourer et personne pour le prendre en charge sur le plan médical.
Du coup, par rapport à l'arrêt cardiaque, est-ce que vous avez un retour sur la survie d'un arrêt cardiaque à bord?
Alors, heureusement, c'est un événement qui est absolument exceptionnel. Nous avons fait dans le passé une publication avec le docteur Catherine Bertrand du SAMU 94 et qui a démontré que dans un avion, même si on a peu d'événements, le pourcentage de survie est plus important que dans la vraie vie. Pourquoi? Quand on fait un arrêt cardio-respiratoire, vous avez 300 témoins. C'est la première chose. Vous n'êtes pas dans votre cuisine à 2 heures du matin. L'autre chose, vous avez du personnel formé. Tous les PNC, hôtesses et stewards sont formés aux secouristes. Troisième chose, vous avez un défibrillateur à bord. Et donc, grâce à ces trois éléments réunis, le pourcentage de survie était plus élevé sur nos avions que dans les études publiées sur les chiffres dans la population générale.
Et donc, par rapport du coup à la prise en charge du personnel médical à bord, est-ce que un médecin qui intervient peut avoir une problématique d'ordre légal?
On a d'abord en France la non-assistance à personne en danger. On a le droit de ne pas être médecin, on a le droit de ne pas être secouriste, mais on a le droit de prévenir les secours pour pouvoir les alerter. Là, on est dans le cas d'un médecin, je suis professionnel de santé, je pourrais être mis en cause parce qu'en tant que professionnel de santé, je n'interviens pas. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais de médecins qui sont poursuivis parce qu'ils ne veulent pas exercer leur métier. La chose que je recommande, c'est que quand un médecin est témoin à bord d'un problème médical, il le signale auprès du personnel de cabine. La première chose, et à partir du moment où il y a un appel du personnel de cabine vers le médecin, les assurances de la compagnie aérienne, de notre compagnie aérienne, vont couvrir le médecin qu'un médecin qui est en exercice a lui-même ses propres assurances qui le couvrent dans son suivi. Et une question qui m'est souvent posée, c'est notamment vis-à-vis des compagnies nord-américaines ou anglo-saxonnes où le principe de non-assistance à la personne en danger n'existe pas, mais par contre, les poursuites judiciaires peuvent être extrêmement rapides vers les professionnels de santé. Le législateur américain a introduit un texte qui s'appelle le texte du bon samaritain pour protéger le soignant qui est amené à intervenir sur un vol. Il ne peut pas être poursuivi à partir du moment où il intervient gratuitement, pas contre rémunération ou contre des honoraires. C'est comme un point important à retenir. Il est dit de ne pas le demander, mais il ne sera pas poursuivi, sauf s'il fait un acte délictueux, bien sûr, mais s'il intervient dans ce cadre-là.
Et donc justement, vous parlez des assurances liées par exemple à la compagnie. Est-ce que c'est un type d'assurance qui est finalement commun à toutes les compagnies dans le monde ou est-ce que c'est réservé vraiment entre guillemets, aux compagnies européennes classiques?
Là, je ne peux pas vous répondre pour toutes les compagnies, mais par contre, une réponse que je peux vous apporter, je fais partie du Medical Advisory Group IATA, qui est un groupe de médecins qui réunit les grandes compagnies aériennes du groupe IATA. On avait fait un point récemment entre nous. Je n'ai pas connaissance d'une poursuite d'un médecin qui serait intervenu à bord sur IATA. C'est des compagnies qui sont dans le monde entier, aussi bien en Asie, en Océanie, enfin bref, un peu partout. Je n'ai pas connaissance et que c'est comme un point important à retenir. Le principe est simple aussi, c'est que lorsqu'il y a des poursuites qui sont faites, on va plutôt attaquer la compagnie aérienne directement que le médecin. Le niveau des assurances de la compagnie aérienne ne sera pas le même que le niveau des assurances qui vont couvrir le médecin.
Bien entendu. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour l'ensemble de ces réponses très claires. Et je pense que vous vouliez aborder aussi une nouveauté peut-être liée au personnel médical à bord.
Oui, Bruno, je suis très heureux que ce podcast ait lieu. Air France a pris la décision de proposer aux médecins volontaires, médecins qui voyagent soit pour raisons professionnelles ou soit pour raisons touristiques, s'ils souhaitent intervenir en bord, de rentrer dans une communauté de médecins. On l'a appelé, c'est quelque chose, un projet que nous avons mené avec dans le groupe Air France et KLM. Donc, le terme est en anglais, c'est la Community of Doctors on Board. Ce principe, c'est je suis médecin, je vais voyager, je suis en possession d'une carte Flying Blue, qui est notre carte de fidélité. En rentrant dans la communauté médecin, je vais remplir un fichier, un petit questionnaire. À partir de là, je vais recevoir 6 000 miles de bienvenue. Et lorsque j'interviendrai à bord de l'avion, pour le désagrément que j'ai eu, ça n'est pas du tout une rémunération, mais pour le désagrément, au lieu de passer 3, 4 heures, 6 heures tranquille à regarder mon film, j'ai été amené à intervenir. Pour remercier le médecin, il va recevoir un certain nombre de miles dans des proportions non négligeables. C'est de l'ordre de 10, 15, 20 000 miles. Ça peut aller jusqu'à ces chiffres-là. Et l'autre chose, c'est qu'à partir du moment où j'ai été signalé, l'équipage sait que le docteur, par exemple le docteur Bruno Garcia, est à bord et que donc il est au rang 16A du vol Paris-Toronto et que donc il accepte de faire partie de notre communauté. On ira voir directement le docteur Garcia en disant, on a vu que vous faites partie de la communauté des docteurs on board. Est-ce que vous accepteriez d'intervenir? Alors, on va quand même demander la carte professionnelle, parce que c'est une règle de vérifier que c'est bien le docteur Garcia qui est à bord, et puis il a toujours son activité professionnelle. Et parti de là, il va pouvoir bénéficier de pouvoir aider le personnel. Nous-mêmes, nous allons aider en nous donnant les contenus de nos trousses médicales à bord, un certain nombre d'informations que nous ferons partager. Je vous remercie de me donner la parole. Donc, j'invite tous vos confrères, collègues, consoeurs qui seraient intéressés par ça à aller sur le site Air France où vous aurez toutes les informations sur la Community of Doctors on Board.
Très bien, merci beaucoup Antoine pour votre participation.
Je vous en prie, merci beaucoup Bruno.